Chapitre 19. Au volant du Range Rover, tous phares éteints, Gavin troqua l'obscurité du garage contre celle de la nuit et prit la direction de la barrière qui fermait l'arrière du ranch en direction des champs traversés à cheval le matin même en compagnie de Travis. Le petit garçon était sanglé sur la banquette arrière et Jessie, à la place du mort, était prête à défier celle-ci en s'emparant à la moindre alerte du fusil accroché au tableau de bord. À l'abri des nuages qui cachaient les étoiles en laissant juste filtrer la clarté fantomatique de la lune, la campagne ouvrait ses portes en friche. Gavin trouva sans peine son chemin grâce aux jumelles de vision nocturne qui habillaient le paysage d'une lueur verte. Il ne s'agissait pas de jumelles de qualité ordinaire, mais d'ATN PVS 7, 3, de génération 4, à 60 000 dollars l'unité. Jane, qui les lui avait fournies, ne les avait sans doute pas achetées, mais Gavin avait eu la délicatesse de ne pas lui poser la question. Les jumelles amplifiaient plus de 80 000 fois la moindre lueur, à commencer par les infrarouges invisibles à l'œil nu, et offraient un champ de vision élargi à 120 degrés. En pleine campagne, par une nuit sans lune, il n'aurait pas pu se permettre de rouler avec les phares. Gavin avait beau savoir que le reflet des feux stop serait atténué par les herbes sauvages, il s'efforçait de freiner le moins possible. Le bruit du moteur, s'il était susceptible de trahir leur fuite initialement, ne poserait plus de problème une fois qu'ils se seraient éloignés d'un ou deux kilomètres. Les observateurs éventuels éprouveraient les plus grandes difficultés à localiser précisément le Land Rover dans le dédale de collines et de canyons dessinés par les millénaires.
« Tu conduis à l'aveugle !» remarqua le petit garçon sur sa banquette.
« Toi et moi ne voyons rien, » lui répondit Jessie, « mais pas Gavin. »«
J'y vois comme en plein midi, » approuva le conducteur en omettant de préciser que l'inconfort des jumelles le gênait.
En le privant de ses couleurs, les jumelles transformaient le paysage en une planète étrange, sur laquelle la terre et l'eau se mêlaient dans une même teinte verdâtre. De l'autre côté du pare-brise, le semi-désert qui les entourait cédait la place à un océan au fond duquel avançait le 4x4, tel un sous-marin soumis à une pression monstrueuse. Gavin parcourut près de 2 kilomètres avant de comprendre les raisons de son inquiétude croissante. Aucune des pièces composant le musée de sa mémoire n'était tabou, mais certaines n'étaient moins agréables que d'autres à visiter. Il ne prenait aucun plaisir à revivre les missions de nuit en Afghanistan, effectuées avec des jumelles similaires, peuplées de villages aux habitations de pisées recouvertes de crépis, de camps retranchés regorgeant de pièges. Chaque ouverture de porte vert foncé, chaque fenêtre abritait un assassin potentiel. Une silhouette sombre se détachait brusquement sur un mur vert pâle qui tirait en courant. Une flamme d'un vert acide s'échappait d'un canon de fusil. Il s'agissait alors de répliquer en visant avec davantage d'efficacité. La silhouette se figeait, auréolée de son manteau, le temps d'une danse qui s'achevait un instant plus tard, lorsque l'assaillant s'écroulait au milieu d'une mare de sang d'un vert presque noir. Gavin avait toujours su quel risque Jessie et lui couraient pour avoir accepté d'aider Jane. Mais c'était seulement en découvrant le monde à travers ses jumelles qu'il prenait conscience d'être en guerre. Une guerre fratricide, opposant des Américains à d'autres Américains.